Donc bonjour monsieur Diligent.
Bonjour.
Vous subissez depuis quelque temps des attaques sur les réseaux sociaux. Cela a eu un impact sur votre famille ?
Bah écoutez, c'est toujours des périodes plus compliquées pour la famille, je pense, de chacun. Quand la famille voit qu'un candidat, qu'un proche se fait attaquer, effectivement, ou critiquer sur les réseaux sociaux. Bon, mais d'un autre côté, je vous dirais sincèrement, si mes concurrents m'attaquent autant, c'est sûrement que je dois leur faire peur. Donc il y a toujours un revers.
Bien sûr, ouais. Des internautes veulent vous coller une étiquette d'extrême droite sur la base de votre proposition sur les migrants et marcher sur le terrain du RN. Mais ce serait un dossier qui concerne tous les candidats qui prendraient la mairie.
Bah effectivement, à partir du moment, apparemment, bon, on parle de sécurité aujourd'hui, on est tout de suite considéré comme voulant faire la course derrière le RN. Moi je regrette, mais tout parti a le droit et tout candidat a le droit de prendre des positions. Moi je pense que la sécurité et la propreté sont des priorités pour les formats choix. On a encore vu aujourd'hui les problématiques de sécurité qui peuvent avoir tant au niveau national avec Dijon par exemple, ou sur Forbach avec les voitures incendiées cette nuit à Petite Forêt. Je dirais quand même sincèrement que la sécurité reste quand même aussi une priorité dans ces périodes difficiles et qu'il faut que ce soit un sujet traité. Ensuite, en ce qui concerne la migration économique, ben c'est pareil, il faut quand même à un moment donné poser les problèmes. Accueillir des gens qui fuient la guerre, je l'ai toujours dit, c'est normal, ça fait partie des devoirs d'accueil de toute personne civilisée. Après, moi je ne comprends pas pourquoi je dois compenser la différence de niveau de vie entre Forbach, enfin la France, et là plus particulièrement Forbach, et puis des pays des Balkans comme l'Albanie, le Kosovo ou la Géorgie. Donc, Forbach a déjà des gros problèmes d'endettement, de chômage. Moi je préfère m'occuper des jeunes de Forbach et des moins jeunes que de m'occuper des jeunes issus des Balkans qui ont qu'à se tourner vers les élus des pays d'où ils viennent. Moi j'ai pas un budget extensible à l'infini. J'ai 37 millions de dettes à Forbach qu'il faudra gérer, des projets qui sont laissés par l'accès aux municipalités qui sont extrêmement chers, qu'il va falloir arrêter. Et donc on a énormément de problèmes. Il y a aussi les problèmes de sécurité au niveau de l'Ibis, au niveau de l'hôtel de la Poste, parce que les propriétaires des hôtels, eux, ils engrangent l'argent, mais ils laissent les situations se détériorer. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut à un moment donné dire stop et revenir à quelque chose de raisonnable, sans avoir rien contre qui que ce soit. Moi, je suis pour le pacte républicain, l'accueil. Donc les mêmes droits et les mêmes devoirs pour tous. Mais à un moment donné, on ne peut pas accueillir toute la misère de la planète. Ça ne va pas.
Très bien, je vous en remercie. Des accusations portent également sur le fait que des colistiers auraient quitté le navire pour reprendre l'expression dite sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il exactement, monsieur Diligent ?
Voilà, encore, on est dans du fantasme total. J'ai eu l'un ou l'autre colistier qui a été malade, et donc ça a eu comme conséquence que, par exemple, une personne a dit qu'elle se mettrait un peu en retrait parce qu'elle a eu des gros soucis de santé, et toutes mes pensées vont vers elle, mais voilà.
Ça en a fait une polémique alors qu'elle n'est pas lieu, quoi.
Oui, disons, comme la personne n'est pas très en forme, elle a dit qu'elle allait se mettre un peu en retrait, et puis automatiquement, on en déduit qu'il y a une pléthore de gens qui auraient maintenant un problème de quelque sorte, alors que la liste est toujours aussi complète, hein, que j'ai un plein soutien de mon équipe, enfin je n'ai même pas besoin normalement de le dire, mais voilà, on est tous en train de travailler aujourd'hui à gagner, et on n'est pas du tout dans ces polémiques qui servent surtout, on va dire, mes concurrents, et qui sont alimentés par des gens proches de mes concurrents pour essayer de me fragiliser et de m'affaiblir, parce qu'ils ont tellement peur que je l'emporte, ils essayent de faire feu de tout bois.
D'accord. Et sur ceux qui vous accusent d'un manque de présence pendant le confinement, quelle réponse leur apportez-vous ?
Alors, je vais vous dire ce que j'ai dit pendant le débat. Moi, mon équipe et moi, on a fait énormément de choses. Distribution de matériel médical, distribution de repas, aide à la personne. Je fais beaucoup de choses à distance aussi pour les personnes, en essayant d'éviter justement de contaminer qui que ce soit, enfin voilà, qu'il y a un risque. Donc, il fallait quand même rester raisonnable. Alors, je ne savais pas qu'il fallait se promener avec un journaliste avec soi à chaque fois qu'on faisait quelque chose pour quelqu'un, ou qu'à chaque fois qu'on faisait une action pour une association ou autre. Si je l'avais su, fallait me le dire avant. Moi, j'en ai fait, je pense, pas moins que les autres, mais sauf que j'ai fait le choix, moi, de ne pas le médiatiser, alors à tort peut-être. Je trouvais que c'était indécent, moi, personnellement, de me servir d'une période de crise pour essayer de me mettre en avant sur les municipales. Alors, c'était mon choix. Certains électeurs sont peut-être d'accord, d'autres peut-être moins, mais voilà. Et donc non, on était présents, on a aidé, mais on n'en a pas fait la publicité.
Très bien. Depuis le déconfinement, vous êtes à nouveau sur le terrain, la campagne reprend. Quels sont encore vos objectifs cette semaine et la semaine suivante ?
Ah ben là maintenant, c'est des journées, des nuits très courtes et des journées très longues avec du tracking. Il y aura de la présence sur le terrain. Alors j'essaie quand même d'éviter le porte-à-porte, contrairement à certains de mes concurrents pour l'instant, parce que même si on nous a dit que tout est vert, j'essaie de passer je vais dans les quartiers, je vois les problématiques des quartiers, j'agis, il y a des vidéos qui vont encore sortir, il y a donc le track qui va sortir, il y a énormément de choses sur lesquelles qu'on va faire pour la visibilité du programme, de la candidature, voilà, rappeler au format choix ma présence pendant ne serait-ce que les 6 dernières années dans l'opposition, pendant que les autres, eux, on ne sait pas où ils étaient, enfin, une partie au moins d'entre eux, on ne sait pas très bien où ils étaient à chaque fois qu'il fallait manifester contre le sens unique, contre la taxe d'ordures ménagères, contre la réforme des rythmes scolaires, contre le non-ramassage des encombrants. Enfin bref, je pourrais vous en donner une liste très longue de toutes les choses sur lesquelles je me suis battu et où finalement, j'étais accompagné de mon équipe, mais des équipes en face, il n'y en avait pas. Donc voilà, ce sera ça effectivement le sens de la campagne qui reste.
Que dites-vous aux habitants qui ne souhaitent pas aller voter, soit parce qu'ils sont lassés de la politique en général ou par raison sanitaire,
Moi, j'ai envie de leur dire plusieurs choses. Premièrement, je comprends l'angoisse après ce premier tour où finalement, alors je ne vais pas dire on nous a menti, mais en tout cas, on nous a mal présenté les choses au niveau du gouvernement Macron et des structures généralement locales et décisionnaires. Mmh. On nous avait dit, c'est comme aller acheter une baguette d'aller voter. Alors on sait maintenant que ce n'était pas aussi simple que ça. Hein, et donc, effectivement, beaucoup de gens se sont rendus compte qu'il y a eu une partie de personnes qui ont été infectées à ce moment-là. Et ce mensonge de base, ou ce manque d'information correcte de base, a créé une angoisse après ça. Et donc, cette angoisse perdure encore pour le deuxième tour. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est, bien sûr, venez voter, mais avec le respect des gestes barrières, avec les distanciations, avec les masques, en prenant son stylo, ramenez même le bulletin de vote du candidat, de préférence le mien, pour aller voter. Je veux dire, donc, les bureaux de vote, d'après ce que j'ai compris, sont organisés de manière à ce qu'il n'y ait qu'un bureau par pièce et qu'il y ait une entrée et une sortie différenciée. Donc, franchement, cette fois-ci, les mesures ont été prises pour réduire, mais alors considérablement, le risque. Et donc, je dis aux forbachoises et aux forbachois, en respectant toutes ces mesures-là, les risques de contamination sont quand même extrêmement faible. Et donc, si vous ne voulez pas demain avoir le candidat de M. Macron, M. Cassaro, ou le candidat, enfin soutenu par M. Macron, ou d'autres candidats qui ne feront que continuer la politique de M. Kalinowski, si vous voulez vraiment quelqu'un qui redynamise format, qui continue à être présent pour vous et à vous accueillir en mairie, à suivre les dossiers, votez pour moi et mon équipe, on est compétents, on est présents, on croit en Forbach et on croit que les formations veulent autre chose aussi. Voilà.
Très bien. La deuxième partie de cette interview sera sur la sécurité. Selon vous, les Forbachois se sentent-ils en sécurité ?
Écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, au vu des retours que j'ai eus sur les 6 dernières années, et même d'avant, puisque ça ne fait pas que 6 ans que je suis présent, mais 6 ans que je suis dans l'opposition, les Forbachois se rendent bien compte que la sécurité, la propreté, tout ça s'est beaucoup dégradé sur Forbach, et que demain, il faudra une vraie politique, doublement des effectifs. Il faut des patrouilles jour et nuit, donc 2 patrouilles de nuit sont prévues, une patrouille qui tournera régulièrement au centre-ville et une autre dans les quartiers, donc 2 patrouilles à chaque fois, première partie de journée et deuxième partie de journée, donc ce sera 6 patrouilles en tout, réparties sur la journée, armées, donc avec tout l'équipement, taser et autres, avec les formations. Et moi, par contre, comme je budgétise les choses, effectivement, j'ai dit que le carreau devrait être pris en charge par l'aglo et que l'argent entre 300 et 400 000 euros par an qu'on économiserait, les 2/3 seraient mis sur la sécurité et le reste serait mis sur la culture pour la création d'un nouveau fac et puis d'autres actions culturelles. Donc voilà, donc sur la sécurité maintenant, puisque tout se touche un peu, on va dire, sur la sécurité, voilà, une vraie politique avec de la vidéosurveillance, avec de la verbalisation tout de suite dès qu'il y a des infractions. On finit les tapages, finit les jets de déchets, pas besoin de brigade verte, la police municipale interviendra tout de suite et mettra fin à tous les désagréments, les cortèges de mariage bruyants. Enfin bref, je vous passe un peu tout ce que les Forbachois subissent.
Hein. Oui. Pour répondre à cela, Vous doublez le nombre de policiers municipaux, ce qui porterait le nombre d'agents à combien?
Alors, le nombre de policiers municipaux serait une vingtaine. De policiers municipaux, je crois. Hein. Ouais. Voilà, donc, et ce serait une vingtaine, à peu de choses près, parce qu'il faut ajuster les brigades, c'est ça, donc je vous dis à peu près 20. Hein, voilà, donc, plus l'équipement, bien sûr. Mmh.
Et comment on passe d'une police non armée à une police armée? Et si cela se faisait peur dans le sens où la violence appelle la violence?
Alors, il y a énormément de villes qui sont gérées par des candidats, enfin par des maires qui sont de toute tendance politique, de gauche, du centre, de droite, qui ont décidé d'armer leur police municipale. Alors, c'est pas qu'on ait forcément une envie folle d'avoir un équipement d'armes dans les locaux de la police municipale. C'est surtout qu'on voudrait que la police nationale n'a plus les moyens d'accomplir l'intégralité de ses missions comme elle le faisait avant. La police nationale à Forbach a beaucoup de mal à avoir une brigade de nuit. La police nationale de Forbach n'a plus assez d'effectifs. Malgré le plan Valls, malgré ce qu'on a eu sous M. Collomb, on voit bien que l'équipe de Macron aussi a continué à réduire, en nous promettant toujours des sureffectifs chez nous, mais finalement, comme on a tellement réduit pendant longtemps, oui, les sureffectifs, ça ne compense même pas ce qui est parti. D'accord. Et donc, les municipalités, si elles veulent pouvoir assurer la sécurité, qui est quand même la première des libertés pour les Forbachois, il faut que nous, on prenne ça en charge. Alors, ça a un coût, je vous l'ai dit, c'est budgété, on le fera, mais il faut de la sécurité pour les Forbachois.
D'accord. Vous voulez la vidéosurveillance? Aujourd'hui, vous estimez qu'elle est insuffisante en caméra, en agent? Y avez-vous un objectif chiffré en caméra et en agents de surveillance?
Alors, pour les agents de surveillance, pour les caméras, il faut qu'il y ait constamment une personne devant la caméra. Oui. Ce qui veut dire, en général, il faudrait un effectif à peu près, on va dire, de 6 à 8 personnes, suivant maladie ou pas maladie, mais oui, on va dire, voilà. Donc, ce n'est pas forcément du personnel, on va dire, police municipale. Ça peut aussi être... Donc on verra comment on articule ça, mais en termes d'effectifs, ça fait encore 6 à 8 personnes en plus, c'est sûr, qu'il faut avoir pour surveiller les caméras. Parce que ça ne sert à rien dans la vidéosurveillance. En plus, il faut s'il n'y a personne derrière la caméra, mais il faut aussi dire que, en plus, le matériel devrait être de qualité. Il faudra investir un peu dessus, parce qu'aujourd'hui, les caméras sont de mauvaise qualité. Voilà,
d'accord. Et armée et équipée, une police doublée et développée, cela a un coût et combien?
Alors l'armement et les formations et le reste, on peut penser que sur les, on va dire, en plus des 250... Après, l'armement, c'est un investissement de base. Hein.
Oui,
c'est pas tous les ans. Une fois que les armes sont là, c'est surtout après l'entraînement au tir, les boîtes de cartouches. Voilà. Mais on peut compter à peu près, je pense, en formation, en équipement, puisqu'il faudra aussi des gilets pare-balles et des nouveaux véhicules, parce que moi, les gogo mobiles qui actuellement, c'est pas ce que je veux garder. Vous pouvez après établir sur 100 000 euros sur un investissement de base, sur la première année, qui après sera simplement de l'entretien et du complément sur les autres années. Donc vous pouvez partir sur un mandat sur une moyenne à peu près de 20 000 euros par an. Donc on reste toujours dans le budget qu'on avait de 250 000 à 300 000 euros qu'il faudra mettre dans la sécurité par an.
Oui.
Voilà, et là on y est.
Quoi. La troisième partie de l'interview, c'est sur la migration et l'emploi. De nombreux Forbachois ont exprimé que les migrants représentent un souci. Vous, qu'en pensez-vous et quelles solutions apportez-vous concrètement?
Alors effectivement, quand on dit migrants, il faut préciser, il y a les réfugiés de guerre qui eux doivent être accueillis.
En gros, c'est plus ceux qui sont hébergés actuellement à l'état potable.
Voilà, donc plutôt les migrants économiques.
Économique.
Les migrants économiques qui sont des personnes qui effectivement viennent pour une différence de qualité de vie, hein, de niveau de vie, d'aide sociale, pour se faire soigner plus facilement. Je le redis, je ne leur en veux pas pour ça, mais nous, on n'a pas pour vocation d'accueillir toute la misère qui existe sur Terre. Et donc moi, je veux d'abord me consacrer aux Forbachois, c'est ma priorité. Qu'il y ait des réfugiés de guerre qui arrivent et qu'on doive en prendre notre part, on est bien d'accord. Mais d'abord les Forbachois et avant tout les Forbachois. Donc moi, je pense qu'il faudra agir fortement là-dessus. Il faut bien comprendre que ne serait-ce qu'au niveau des hôtels, parce que les migrants économiques ne sont pas que dans les hôtels, mais une bonne partie s'y trouve malgré tout. Tous les problèmes de tapage, il faudra les régler avant tout. Tous les problèmes de jet d'ordures par les fenêtres, où après on a eu les cafards et la crèche a dû déplacer, ce qui était lamentable. Tout ça, c'est des choses qu'il faudra régler. Et en même temps, il va falloir à un moment donné que le maire assume ses pouvoirs de police et ses pouvoirs dans le cadre des commissions de sécurité pour expliquer que ces hôtels-là, on n'en peut plus, déjà à la base. Et donc les personnes qui sont dedans, il faut qu'elles soient sorties des hôtels, mais aussi de la ville et aussi de l'agglo. Parce que nous, avec 3 points de chômage en plus, je le redis, et des problèmes d'endettement massif, on a d'autres problématiques à régler que de gérer ces problématiques-là. Ces personnes n'ont pas vocation à rester en France et à Forbach. Si la préfecture a d'autres points de chute, eh ben, ils verront. Mais moi, en tout cas, je vais activement me battre pour que, petit à petit, pour les hôtels, assez rapidement, et pour après, même pour les logements qu'on a occupés comme ça, on voit de redispatcher ces gens ailleurs. Parce que franchement, nous, on n'a pas les moyens et on a d'autres choses à faire avec nos moyens que de s'occuper de toutes les problématiques internationales.
D'accord. Il semblerait que dans votre programme, vous vouliez mettre en place une sorte de préférence municipale pour les forts bachois. Dans quelle mesure, monsieur Diligent ?
Alors, elle est globale. Hein. Mmh. Par exemple, au niveau de l'agglo ou de la ville, quand on doit faire des travaux, alors il y a un code des marchés publics, hein. Je ne suis pas complètement idiot, je sais bien qu'il existe, mais dans toute la mesure du possible, pouvoir toujours faire appel d'abord aux entreprises locales, que ce soit au niveau municipal, au niveau de l'agglo. Toujours d'abord embaucher de préférence les gens qui ont les compétences suffisantes au niveau municipal ou au niveau de l'agglo quand on a des emplois publics à pouvoir.
Oui.
Toujours, voilà, donc tout ce qu'on peut dépenser au niveau local pour régler des problématiques, quand on a des dépenses à effectuer, de travaux ou autres, ou de l'embauche à faire, il faut que ça soit le plus local possible. D'accord. Je ne comprends pas pourquoi depuis des années on va chercher des gens à Strasbourg, à Nancy, à Metz, à Beach ou n'importe où, pour prendre des emplois ici, alors qu'on a plein de personnes compétentes qui sont au chômage informel.
Bien sûr. La quatrième partie de notre interview concerne l'urbanisme. Comment procédez-vous pour établir le double sens dans la rue des Moulins ?
Alors, et dans la rue des Jardins. Rue des Moulins, rue principale.
Jardins,
rue
je pense que vous avez apporté déjà la solution avec les places en quinconce.
Oui.
Mais là, c'était surtout sur la rue des Moulins.
Oui, mais je ne voudrais pas que les gens de la rue des Jardins pensent que je les oublie. Non. Donc, les quinconces, rue des Jardins, et on retire, avec les places de parking en quinconce, et on retire les bus et les camions. Voilà, oui. Je rappelle. Et pour la rue des Moulins et rue principale, un des problèmes qu'ils avaient, c'était les camions qui passent tout le temps.
Oui.
Donc, enfin, qu'il y ait un double sens sur cette rue-là, c'est quand même assez normal, ça s'appelait rue principale. Donc, un double sens de voiture, oui. Tous les camions qui passaient pour la déchetterie de l'Est, on va faire une voie de contournement.
D'accord.
Pour qu'il y ait le minimum possible de camions qui passent par ces rues-là, la rue principale et la rue des Moulins. Et donc, comme ça, on réduit, on va dire, les nuisances pour les habitants.
Oui.
Et le double sens en lui-même n'est pas un problème parce que voilà, la route est déjà quasiment prédisposée. On touchera très peu aux places de parking. Par contre, la piste cyclable, on va la passer comme c'est légalement prévu, même dans le cadre de la loi LAURE, on peut le faire. On passera les pistes cyclables sur le trottoir avec un marquage au sol comme rucheuseur d'un côté de la rue.
D'accord.
Et donc, on aura un double sens de nouveau opérationnel, mais avec beaucoup moins de camions que ce qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant.
Très bien. Dans le programme En rue et cœur de ville, il y a des choses définies et des choses modifiables. Quels changements apportez-vous ?
Alors, l'En rue, vaste sujet, mais enfin, je vais essayer d'être synthétique et court.
Oui, oui.
L'En rue, c'est que de la destruction dans la vision de M. Kalinowski et dans la vision de M. Cassaro et dans la vision de mes concurrents. Voilà, c'est que de la destruction. Sauf M. Ombert, je veux bien le dire, parce que il a un autre projet que moi, mais voilà, il a une autre vision, mais au moins on ne garde pas le projet destructif.
Oui.
Alors qu'il faille détruire certains bâtiments comme la tour numéro 3 des Dahlias et même peut-être encore une autre tour des Dahlias, oui. Qu'on détruise encore un ou l'autre qui est en mauvais état, oui. Mais qu'on détruise des immeubles pour faire sortir les habitants de Wiesberg qui y habitent depuis parfois 50, 60, 70 ans, non. On va maintenir les habitants dans le quartier, on va réattribuer les fonds sur de la rénovation, sur des ascenseurs pour les personnes âgées, sur des papy-lofts, sur de la sécurité, parce qu'on va mettre aussi... moi, je veux une annexe de la police municipale dans le quartier, sur des aires de jeu, sur des aires de sport pour les jeunes, parce que c'est un quartier très jeune. Voilà, donc, vraiment, réattribuer, redistribuer les financements pour faire que, par exemple, sur le quartier du Wiesberg, le projet En rue soit affecté au cadre de vie, on gardera le centre social, on ne mettra pas de ferme pédagogique. Et pareil pour le Haut de Bellevue, là aussi sur le logement et les choses qui seront faites avec l'argent de l'En rue. Donc je n'oublie ni le Haut de Bellevue ni le Wiesberg, ce sera moins de destruction et plus de rénovation et de cadre de vie.
Vous souhaitez arrêter Action Cœur de Ville à la phase 1 et prendre cet argent pour refaire des routes. Que seraient les phases suivantes pour vous ?
Écoutez, dans un premier temps, donc on passerait effectivement à deux voies sur la phase 1, ça c'est sûr. Et on perdra le parking de la mairie, ça jusqu'à présent on n'a rien réussi à faire contre, mais bon. Et donc on l'arrête à la phase 1 parce qu'il y a encore dans la phase 2 et 3 la rue de la Tuilerie qui disparaîtrait pour mettre un, à nouveau un projet complètement débile de mettre des espaces verts en plein milieu alors qu'on perdrait nouveau une route et des places de stationnement, on perdrait l'ancien parking du Monoprix, bref, des centaines de places, enfin à peu près 200 places de parking disparaîtraient sur Forbach entre le bas et le haut de la ville, c'est énorme. Et donc là-dessus, il va quand même falloir s'arrêter à la phase 1 pour refaire les routes qui est la priorité. Parce que les routes sont en très mauvais état à Forbach. Donc là-dessus, les économies qu'on fait iraient là-dessus. Sur de la rénovation urbaine un peu de centre-ville. Enfin bon, M. Steinweiss avait déjà fait une rénovation sur la ville. Il faut surtout qu'elle soit propre.
Oui.
Et c'est surtout ça, revoir le projet pour en refaire un projet de dynamisation urbaine. Malheureusement, avec un morceau en deux voies et un morceau en quatre voies. Mais ça, on ne pourra rien y faire. Dans un premier temps.
Vous voulez racheter des cellules en ville, les rénover, puis les louer à moitié prix. Vous avez ciblé déjà des cellules ?
Non. Non, j'ai pas ciblé de cellules. Ça se fera en fonction déjà des ventes, parce que je ne force pas les propriétaires à vendre, mais régulièrement, il y a des propriétaires qui mettent des cellules en vente. Avec le périmètre de sauvegarde, en plus, on peut être prioritaire pour les racheter. Et on peut choisir même le type de commerce qui s'installe. Donc pour éviter d'avoir 10 fois des banques, ou je ne sais pas, bref, un exemple, hein, de ne pas avoir tout le temps les mêmes commerces. Donc là aussi, on pourrait agir dessus. Alors le rachat des cellules pour les relouer après rénovation à moitié prix a l'avantage de casser les prix des loyers. Et ce serait, on va dire, 4-5 cellules par an qu'on rénoverait, voire plus, peut-être maintenant un peu à cause de Covid et de l'impact économique négatif qu'on va avoir. Mais il faut savoir qu'on a le meilleur programme quand même de développement économique qui est prêt pour l'après-Covid. Hein, donc, voilà.
Question d'un internaute, la moitié du prix nécessiterait une uniformisation du mètre carré. Qui pourrait bénéficier d'une telle mesure car elle a un coût ?
Alors, nous, on n'a pas vocation, en termes de politique municipale, à influer le prix du marché directement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fixer, nous... Ça, c'est ma spécialité, parce que dans la fonction publique, j'ai fait de l'évaluation immobilière pendant de nombreuses années. Le marché se crée tout seul. C'est-à-dire que maintenant, si tout le monde veut louer à 2000, et s'il est propriétaire, s'il n'arrive pas à louer, c'est son problème, mais le prix du marché restera inférieur à ce qui est proposé, mais personne ne louera parce que c'est trop cher.
D'accord.
Et donc, maintenant, et on verra que ceux qui louent souvent moins cher. Ceux qui réussissent à louer, c'est louer moins cher. Et donc, c'est en termes de moyenne de location qu'on a un prix au mètre carré. Nous, en rachetant et en relouant, notre but n'est pas d'imposer un prix du marché et on ne peut pas le chiffrer. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer d'adapter le prix des locations au chiffre d'affaires actuel sur Forbach. Parce que le prix au mètre carré aujourd'hui peut sembler délirant, mais à l'époque où les houillères tournaient bien, ils arrivaient à le payer. Mais aujourd'hui, bien sûr, comme le chiffre d'affaires est faible, et donc nous, on n'a pas un impact direct de décision sur le prix au mètre carré, mais en cassant régulièrement le prix au mètre carré par local racheté, bien sûr qu'on a un impact, et on arrive à réduire la moyenne du coût au mètre carré sur Forbach des locations.
Très bien. La dernière partie de cette interview, ce serait sur les finances. Et une question qui revenait souvent, c'est où allez-vous faire des économies ?
Alors, vous l'avez déjà dit, pour les grands projets, on va faire des économies sur Action Cœur de Ville pour les routes.
Oui.
En rue, on va faire des économies pour faire de l'aménagement urbain, du logement social. Voilà, oui. Ça, je ne reviens pas dessus. Par contre, après, où faire des économies pour les projets ? Alors, par exemple, pour la police municipale, j'ai dit je transfère à l'agglo le carreau Seine Nationale qui coûte quand même entre 400 000 euros par an à la ville de Forbach. Après, c'est au carreau de voir c'est à l'agglo de voir si elle prend en charge ou pas. Mais moi, je considère que Forbach n'a plus les moyens. Oui. Avoir une structure d'animation culturelle comme FAC l'été, en faire à nouveau, pourquoi pas, ça je suis pour, et on redistribuera une partie des financements là-dessus. Aider les autres structures culturelles, les galeries et autres de Forbach, la médiathèque, Tête de l'Art et autres, pour ne pas les citer, ou encore Odile Weidig qui fait plein de choses pour la ville, que eux aient un soutien supplémentaire au travers de ces économies, oui. Mais donc là-dessus, déjà, on fait de l'économie qui va servir à la culture, mais aussi à la sécurité, parce que là, par contre, je m'en servirai aussi pour les dépenses de sécurité dont je parlais tout à l'heure. Donc là-dessus, déjà, on fait des économies pour ne pas avoir de dépenses supplémentaires.
Très bien.
Je dois encore dire que, pour ce qui est des associations, pour la création de la grande salle, on fera de la vente foncière, puisqu'on se débarrassera d'une partie des locaux vétustes.
D'accord.
On reprendra des locaux d'associations qui sont anciens pour intégrer dans le nouveau local que je vais créer, d'associations culturelles sportives de 2000 places. Ça, c'est pareil, on se servira de la vente du foncier pour récupérer. Donc, il y aura des ventes de foncier. On fera moins d'études, ce qui nous permettra de baisser la taxe d'habitation sur les locaux vacants. Enfin, c'est un vaste sujet. Donc, on va faire des économies à certains endroits. Donc, moi, mon programme, il ne coûte pas plus cher pas un euro de plus au format choix par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, mais ça aura une autre,
dynamisme.
Voilà, ça aura un autre aspect que ce qui a été fait jusqu'à maintenant.
Très bien. Vous vous engagez à n'augmenter aucun impôt local ou une taxe locale si vous êtes élu maire ?
Ah oui, je veux absolument. Je m'engage à ne pas augmenter si tant est qu'on arrive à éviter de payer les 20 millions que M. Kalinowski veut nous mettre dessus avec l'ANRU et avec le cœur de ville. Moi, par principe, je n'augmenterai pas la taxe. Je n'augmenterai pas la taxe et je me battrai pour que sur les projets qui ont été prévus par la municipalité les plus coûteux, soit à nouveau, je le redis, revu à la baisse pour les coûts, et qu'on arrive malgré tout à faire une belle politique d'investissement productif sans pour autant augmenter les impôts. Donc non, pas d'augmentation d'impôts.
Très bien. Question qui sera donc posée aussi à l'ensemble des candidats. Vous vous engagez à ne créer aucune autre taxe?
Non, voilà, je ne créerai aucune autre taxe.
Très bien. Quelle place aura la culture dans votre programme?
Alors je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc, à la création d'une structure culturelle comme FAC l'été, l'équivalent, de l'aide à toutes les associations culturelles, augmenter, parce qu'en plus on mettra un système en place pour augmenter les subventions des associations qui animent la ville, donc à chaque fois qu'il y a une association culturelle qui par exemple fait régulièrement des animations, des vernissages et autres, aura forcément nouveau un peu plus.
Oui.
Je veux une grande salle de spectacle, on est toujours sur des salles de 800 places, Moi je veux qu'on ferme certaines salles vétustes, je parle pas du CAC, mais certaines salles vétustes de Forbach. Vous avez par exemple l'ancien gymnase Corinec, vous avez les arts martiaux, enfin et d'autres.
Oui.
Et on va redispatcher ça sur une grande salle, qui sera une salle modulable, où il y aura de la culture le soir, puisqu'on pourra accueillir jusqu'à 2000 personnes en dépliant des gradins, ce qu'on n'a pas dans le coin, qui sera refait format le cœur d'un mauvais est en matière culture, et on aura du sport dedans pendant la journée. Et donc on aura une grande salle de spectacle et des structures d'animation culturelle qui seront alimentées.
D'accord. Pour finir cet entretien, je vais vous poser encore une dernière question. Promettez-vous que vos mesures ne coûteront pas un euro de plus à la collectivité? On peut imaginer que l'ensemble du programme est entièrement chiffré. Et si oui, à combien?
Alors, comme je l'ai dit, je m'engage à ce que, qu'on n'augmente pas les impôts parce que mon programme ne coûtera pas plus cher que ce qui était fait jusqu'à maintenant.
D'accord.
Maintenant, comment dire? C'est difficile de donner un chiffrage, on va dire, global de tout, parce qu'il y aura des aides de l'État, des aides du département, des aides de la région, qui vont venir se goupiller sur des programmes qui coûteront parfois cher, mais qui sont pris en charge aux 3/4 ou aux 80% par d'autres acteurs. Donc, donner un chiffrage de l'ensemble de ce qui sera fait, c'est quasi impossible pour aucun candidat.
C'est impossible même pour tous les autres candidats, parce qu'il faudrait qu'ils soient investis pour voir l'ensemble
Parce qu'il y a des choses qu'on supprimera, des choses qu'on maintiendra. Et donc, celui qui vous dit aujourd'hui, je peux vous donner un chiffrage global de ce que ça va donner, ne sachant lui-même pas avec l'ANRU et Action Cœur de Ville où il va, il vous ment. Je veux dire, voilà. Moi, je vous dis simplement, pas de mesures qui coûteront un euro de plus, effectivement, et pas d'augmentation d'impôts et de taxes.
Très bien. Sur ce, monsieur, on a terminé notre entretien. Je vous remercie d'avoir pris quelques instants pour Fort FM et à très bientôt, monsieur Dillon.
Merci de vous être pris le temps de m'interviewer.